Le ministère iranien des Affaires étrangères a appelé les États-Unis à mettre fin à leurs pressions économiques contre Téhéran. En Syrie, 3 civils, dont une fillette, sont tombés en martyrs et 9 autres ont été blessés par l'explosion d'une mine abandonnée par les terroristes. Et le ministre français de l'Europe et des Affaires étrangères a entamé une visite de 2 jours au Maroc, axée sur le renforcement de la coopération bilatérale. C'était le titre en Voici le journal. Le ministère iranien des Affaires étrangères a appelé dimanche les États-Unis à mettre fin à leurs pressions économiques contre Téhéran. Suite à l'annonce des résultats des élections présidentielles américaines, le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Saïd Khatibzadeh, a déclaré dimanche, 8 novembre, que l'Iran s'attendait à ce que le nouveau président des États-Unis entreprenne des mesures concrètes. Dans un entretien accordé à la chaîne iranienne arabophone Al-Alam, M. Khatibzadeh a déclaré « L'Iran a une liste d'engagements à respecter par les États-Unis et ses terriers devront compenser les dommages qu'ils ont causés. » Il a déclaré que les États-Unis n'avaient aucune autre option que de respecter leurs engagements et de retourner à la loi. Les États-Unis ont violé l'accord nucléaire et ils ne sont pas en droit de poser des conditions à l'Iran, a souligné M. Khatibzadeh, ajoutant que les Américains avaient infligé des milliards de dollars de dommages à la nation iranienne. Le porte-parole de la diplomatie iranienne a ajouté « Il faut que les États-Unis mettent fin à cette guerre économique contre l'Iran. Le camp Biden se distingue du camp Trump, mais nous attendons des mesures concrètes. » Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères a continué « La table du dialogue sur l'accord nucléaire est toujours là. » Et il y aura des places pour tout le monde, quoique le trajet soit difficile à parcourir. Dans la foulée, le président iranien Hassan Rouhani a déclaré que la nation iranienne, grâce à sa résistance, avait remporté la guerre économique imposée par l'administration américaine. Le conseiller du leader de la révolution islamique d'Iran pour les affaires internationales, M. Ali Akbar Velayati, évoquant dimanche de nombreuses affinités civilisationnelles, culturelles et historiques que partagent les deux nations iraniennes et afghanes, a déclaré que Téhéran restera aux côtés du peuple et du gouvernement afghan. M. Velayati a tenu cette déclaration à l'occasion d'une rencontre le dimanche avec la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies pour l'Afghanistan et la présidente de la MANUMA, mission d'assistance des Nations Unies en Afghanistan, en visite à Téhéran à la tête d'une délégation pour discuter des évolutions afghanes. Les deux nations iraniennes et afghanes partagent de nombreux points communs sur les plans civils, historiques et culturels, et l'Iran se tient aux côtés du gouvernement et du peuple afghan. Nous apporterons le soutien nécessaire. Des mesures doivent être prises avec l'ONU pour attirer l'appui international en faveur du rétablissement de la paix et de la stabilité durable en Afghanistan, a déclaré M. Velayati, ajoutant « La grande nation afghane est puissante, courageuse et consciente. Elle saura déterminer elle-même son sort. Il existe des relations étroites entre l'Iran et l'Afghanistan et la République islamique d'Iran a toujours soutenu et continuera de soutenir la paix, la stabilité et le dialogue inter-afghan. » Pour sa part, la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies pour l'Afghanistan et la présidente de la MANUMA a insisté sur l'élimination des obstacles et la poursuite des efforts pour faire avancer le dialogue afghano-afghan et plaider pour le renforcement du rôle important et stratégique de l'Iran dans ce processus. L'Iran, en tant que voisin clé de l'Afghanistan, occupe une position très importante dans la région. Nous espérons vivement le soutien et l'assistance de l'Iran dans le processus de paix des parties afghanes, a-t-elle indiqué. En Syrie, 3 civils, dont une fillette, sont tombés en martyrs et 9 autres ont été blessés par l'explosion d'une mine abandonnée par les terroristes dans les terrains agricoles appartenant au village de Rasr el-Muharram, au nord-est de Rama. Une source du commandement de la police de Rama a déclaré au correspondant de l'agence presse officielle syrienne Sana qu'une mine abandonnée par les réseaux terroristes avait explosé à la périphérie du village de Rasr el-Muharram dimanche soir, ce qui a fait 3 morts, dont une fillette et 9 civils blessés alors qu'ils travaillaient dans les terrains agricoles. Toujours en Syrie, 4 soldats de l'occupation américaine ont été tués par un engin piégé qui a fait exploser leur véhicule dans la campagne de la ville de Markada, sur l'autoroute Asakhe-Deir-Essor, a déclaré le journaliste du Sana, citant des sources locales. Sana précise que les militaires visés patrouillaient dans les bases américaines Al-Shadada et le champ pétrolier d'Al-Omar. Par ailleurs, depuis le sud de la Syrie, les sources d'information font part de la découverte et la saisie d'armes et de munitions abandonnées par les terroristes. Au cours des opérations de nettoyage des zones libérées, l'armée syrienne, épaulée par les habitants de ces régions, ont découvert une grande quantité d'armes et de munitions, pour la plupart de fabrication occidentale, qui avaient été abandonnées par les terroristes. Parmi les armes saisies, de mitrailleuses moyennes russes, des RPG B7 et B2, des mitrailleuses lourdes moyennes et légères de calibre 14,5 et 23 mm, des missiles anti-chars, des missiles thermiques anti-tau, des obus de mortier de calibre 60 et 82 mm, des grenades défensives et offensives et autres munitions, précise Sana. Pour protéger la vie des civils, les unités de l'armée, en collaboration avec les responsables des services concernés, poursuivent leurs opérations de nettoyage des villes et villages dans toutes les régions qui étaient sous l'occupation des terroristes, ajoute l'agence de presse officielle syrienne Sana. Dimanche 8 novembre, les forces militaires israéliennes ont tiré et blessé un Palestinien dans la partie sud de la Cisjordanie suite à une prétendue tentative de coup de couteau contre les soldats du régime israélien alors que les tensions s'intensifiaient dans les territoires occupés ces dernières semaines. L'armée israélienne a déclaré dans un communiqué que la tentative de coup de couteau avait eu lieu à l'extérieur du camp de réfugiés d'Al-Fawar, qui se trouve au sud-ouest de la ville d'Al-Khalil, également connue Hebron, à plus de 30 km au sud de Rots occupée. Le communiqué a ajouté que les troupes présentes sur les lieux ont ouvert le feu sur l'homme et l'ont blessé avant de le placer en détention. Aucun soldat israélien n'a été blessé dans le prétendu assaut. Le suspect a été emmené au centre médical Soroka de Be'er Sheva pour y être soigné. Il a été identifié par des responsables palestiniens comme un habitant de 41 ans de la ville voisine de Douma. De nombreux Palestiniens ont été blessés ou ont perdu la vie dans des incidents similaires sous prétexte d'attaques à l'arme blanche ou à voiture bélier. Le régime israélien a été critiqué pour son usage intensif de la force meurtrière et des exécutions extrajudiciaires contre les Palestiniens lorsqu'ils ne constituent pas une menace immédiate. Le ministre français de l'Europe et des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, a entamé le dimanche 8 novembre une visite de deux jours au Maroc, axée sur le renforcement de la coopération bilatérale, a annoncé la porte-parole du Quai d'Orsay, citée par l'agence de presse marocaine MAP. Lors de ce déplacement, le chef de la diplomatie française rencontrera le ministre marocain des Affaires étrangères, Nasser Bourita, afin d'évoquer le renforcement de la coopération bilatérale, la lutte contre l'immigration irrégulière et les questions régionales et internationales, a déclaré la porte-parole du Quai d'Orsay. Et le dialogue politique libyen qui se tiendra ce lundi dans la capitale tunisienne est la meilleure opportunité offerte depuis 2014 pour réaliser ce que souhaitent les Libyens, a déclaré dimanche la chef par intérim de la mission d'appui des Nations Unies en Libye, Stéphanie Williams, lors d'une conférence de presse dans la capitale tunisienne. La responsable onusienne a affirmé avoir remarqué une réelle volonté de la part de chacun afin de faire des concessions dans l'intérêt suprême de la Libye pour ainsi résoudre la crise actuelle. Elle a ajouté qu'elle cherchait à lancer un dialogue politique libo-libyen afin de parvenir à la réconciliation nationale entre tous les rivaux libyens. Voilà, ainsi s'achève le journal. Restez à l'écoute du commentaire politique. Le Hellfire syrien liquide les GIs. Sale temps pour Biden, le belliciste, le tout nouveau président de l'Empire finissant, qui, dans sa plateforme électorale, dit vouloir embraser l'Est de l'Euphrate pour y ériger un petit Israël à l'image du Kurdistan irakien. 4 soldats US viennent d'être liquidés par des missiles tirés au blé. Le 1er novembre, à peine quelques jours après que Donald Trump ait envoyé au bureau de Mamelouk le conseiller à la sécurité d'Assad, ses émissaires qui demandaient la libération de 2 des 500 agents US détenus en Syrie, une spectaculaire opération commando a eu lieu contre la base US Al-Shadad à Assaq. les médias dominants, qui n'ont nullement l'habitude de rapporter l'amplification de la guérilla anti-américaine à des résorts et à Sake, ont passé l'événement sous silence en affirmant que les gardiens de la base, tous membres des FTS, avaient neutralisé l'assaut. Depuis le 1er novembre, l'agence presse officielle syrienne Sana rapporte quasi quotidiennement les attaques anti-FTS qui ne visent en réalité que les agents américains largement déguisés en combattants kurdes pour éviter d'être pris pour cible d'une armée tribale qui opère de plus en plus et de mieux en mieux contre les Américains. Al-Sharq al-Awsat a rapporté dimanche, et dans les termes politiquement corrects, ce qui se passe depuis 15 jours à Adjin, ville que les Américains ont bombardée en 2018 au phosphore blanc à plusieurs reprises pour en expulser les habitants qui, en dépit des harcèlements de Daesh, continuaient à résister à l'arrivée des forces d'occupation. Selon des sources locales, les combats s'avèrent particulièrement intenses et les choses commencent à totalement échapper aux Américains sur la rive est de l'Euphrate. Or, l'indéniable vient de se produire. Dans la nuit de dimanche à lundi, la résistance est syrienne aurait recours non pas à des engins improvisés, comme croit savoir Sana, qui ne pourrait provoquer la perte quand il s'agit de blindés ou de chars, mais à des drones dotés de missiles de précision. Selon certaines informations, le tournant balistique que la Russie a inauguré dans le nord de la Syrie, à Idlib, en tirant il y a une dizaine de jours un missile Iskander contre une parade des terroristes pro-Turquie, juste avant leur départ pour le Caucase Sud, trouve son pendant dronesque à des résorts. À preuve, dans la nuit de dimanche à lundi, 4 militaires américains ont été tués, selon Sana, sur la route reliant Asaki à des résorts, non loin de la base américaine Al-Shadadi. C'est donc loin d'être un raid de pacotille. Voici les soldats US dotés de boucliers humains surnommés FTS ainsi que des tonnes d'armement régulièrement trafiquées depuis l'Irak voisin et à bord des convois militaires comprenant pour chaque lot entre 30 à 50 véhicules qui se font tuer comme des rats juste à proximité de leur tanière. Or, la guerre en Syrie est entrée dans une phase nouvelle. Il s'agit désormais non pas de chasser les agents des Américains, mais des Américains eux-mêmes. Que Biden en prenne note.